Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
RMC, les grandes gueules.
Le député NUPES de la Somme, bonjour.
Bonjour.
Qui a passé beaucoup de temps hier soir et cette nuit à l'Assemblée nationale. Je crois jusqu'à 2h du matin, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Oui. L'article 2, qui permettait d'instaurer jusqu'au mois de janvier un pass sanitaire aux frontières et entre la Corse, les Outre-mer et l'Hexagone, a été rejeté. L'opposition, en quelque sorte, s'est alliée, LFI, LR, RN, pour empêcher ces contrôles aux frontières. L'heure est grave, a dit Mme Borne, qui dénonce justement cette alliance contre nature.
Bon, d'abord vous dire que moi je considère que c'est une péripétie parlementaire et que je sais combien la vie des Français en général, elle dépend pas de ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée. Qu'aujourd'hui ils se demandent, est-ce qu'ils vont pouvoir partir en vacances, est-ce qu'ils vont pouvoir remplir leur frigo, est-ce qu'ils vont pouvoir faire le plein d'essence. Je veux dire que, oui. Voilà, il y a une bulle médiatico-politique autour de petits événements comme ça, il faut pas trop la faire gonfler. Maintenant, je veux pas fuir la question. Donc, dire que d'abord, il y a eu une absence de compromis de la part du gouvernement, parce qu'il y avait une rédaction qui était quand même très très problématique. La rédaction, elle disait que il pouvait y avoir un contrôle sur tout ce qui était à destination ou en provenance du territoire français. Et donc, on demandait, mais finalement, tout, si je viens ici, je suis à destination et en provenance du territoire français. Donc, il y a une grande ambiguïté dans ce que vous dites. Est-ce que ça veut dire que c'est juste vers l'étranger ou bien est-ce qu'on peut avoir une rédaction qui soit plus claire? Et il y a eu, sur un point comme ça, par exemple, un refus pour des questions d'orgueil ou alors parce qu'ils voulaient maintenir l'ambiguïté et remettre le pass dans tous les transports sans qu'il y ait à voter une nouvelle loi, mais il y avait simplement la possibilité de faire un amendement rédactionnel en clarifiant ça. Il y a eu un refus, ça crée un plein de blocage. Nous sommes opposés au pass, nous étions opposés au pass, nous le demeurons, ça change pas.
Il y a une certaine mais l'heure est grave, dit Madame Borne.
L'heure est grave, je veux dire l'heure est grave parce que simplement ils ont plus une majorité automatique et pléthorique qui vote en cadence tous les amendements et toutes les lois. Bon, va falloir s'habituer à ce que ça se passe autrement. C'est tout. Je veux dire, je peux pas considérer moi que le fait qu'il y ait un peu moins les pleins pouvoirs du côté de l'exécutif et que ça soit un peu mieux réparti, même s'il y aurait encore à faire, ça soit pas globalement pour la démocratie dans le pays plutôt une bonne nouvelle.
Oui, bon, on va parler bien sûr de la vie chère, du pouvoir d'achat, mais il y a aussi une question. L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui assume son action en faveur de l'entreprise américaine de VTC Uber. Au nom de la création d'emplois, il a dit qu'il a créé des milliers d'emplois. Il a utilisé cette expression chiracienne que certains trouvent triviale et dans la bouche d'un président, c'est peut-être pas forcément génial. Que vous en pensez-vous ?
Il faut quand même redire ce qui est, c'est qu'il y a eu 17 contacts entre donc Emmanuel Macron et notamment des rencontres et les dirigeants de Uber pour démonter une loi qui était une loi fabriquée par le gouvernement auquel M. Macron appartenait. Donc c'est quand même un sacré, une hallebarde qu'il a plantée dans le dos de son propre gouvernement au profit des lobbies de Uber. Bon, voilà quand même la réalité de ce
décret. Ça crée des emplois.
Ouais. Non, là, ça crée des emplois. Après, on peut se lancer dans le fond de la discussion. Aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, c'est 590€ en moyenne par mois. D'accord? Et donc, est-ce que c'est ce type d'emploi-là qu'on veut créer? Ça, c'est la question de fond qu'on doit pouvoir poser. Mais là, quand même, il y a une autre question qui est, est-ce qu'il y a une trahison à l'égard du pays? Quand on favorise une multinationale comme celle-là, et c'est pas la première fois, je veux dire, j'ai demandé à ce qu'il y ait un cahier des lobbies à l'entrée de Bercy et à l'entrée de l'Elysée. Qu'on sache qui rentre, qu'on sache qui sort. Voilà.
Des lobbies, il y en a partout. Il y en a à l'Assemblée, il y en a.
Eh ben oui, mais
dans
à l'Assemblée,
sens,
il se trouve qu'à l'Assemblée, à l'Assemblée, on nous demande de contrôler ça. Très bien, mais que ça se limite pas à l'Assemblée, qu'il y ait ce qui se passe là. Et bon, là sur Uber, c'est quand même particulièrement flagrant, l'immense connivence. Maintenant, je souhaiterais que de lui-même, Monsieur Macron, ouvre les comptes de sa campagne de 2017 pour lever une ambiguïté.
Vous croyez qu'il y a eu des contreparties ?
En tout cas, apparemment, le monsieur qui a tout révélé, qui est le lobbyiste de Uber, a dit qu'il y a eu des contreparties, qu'il y a eu des donateurs de Uber qui ont fait ça. Moi, je voudrais qu'il y ait une ouverture de la part de Monsieur Macron, qu'il le fasse de lui-même, des donateurs de la campagne de 2017, qu'on voit s'il y a General Electric à l'intérieur, qu'on voit s'il y a BlackRock à l'intérieur, qu'on voit s'il y a Uber à l'intérieur, qu'on voit s'il y a Amazon à l'intérieur. Si les cadres de ces entreprises ont été des donateurs importants de la campagne de Monsieur Macron.
Une commission d'enquête parlementaire serait nécessaire sur cette question ?
Ouais, ça peut être utile. Pour moi, plus largement que la question du beurre, on a, vous savez, le mot lobby, pour moi, est un mot trop faible. Parce que le mot lobby, il suppose une pression de l'extérieur. Or, ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire pression de l'extérieur. Qu'au fond, l'État est aujourd'hui colonisé par des intérêts privés. Et donc, je pense que moi, je serais favorable à une commission d'enquête qui mette à nu ça, ce qu'un plus certain général. Nombre d'ouvrages ont déjà porté. Mais aujourd'hui, il faut séparer l'argent et l'État. Ça paraît être une urgence pour que les intérêts publics, pour que le bien commun prédomine sur les intérêts privés, sur les intérêts des multinationales.
Question de Didier Giraud.
J'étais sur le sujet d'avant, je me demandais comment vous analysez le Rassemblement National qui vote avec vous pour faire barrage à Macron, alors que sur le fond, le contrôle aux entrées des frontières, c'est quand même quelque chose qu'ils ont toujours réclamé, quoi.
Oui, j'ai un peu ironisé là-dessus, en effet, que le Rassemblement National soit aussi le contrôle à l'entrée des frontières. Bon, c'est quand même sur quelque chose de particulier qui est en matière de passe sanitaire. D'accord. Et qui contendait à considérer aussi D'accord. que les Outre-mer faisaient partie des étrangers et que quand ils arrivaient, ils devaient remplir un certain nombre de procédures. Donc voilà. Bon, franchement, je vous dis ce que je pense.
Non, mais c'est un coup politique ou est-ce que vous pensez que durablement le Rassemblement National votera toujours avec vous pour faire chier Macron?
Moi, je pense pas qu'il s'agisse. Vous inviterez des représentants du Rassemblement National vraisemblablement pour qu'ils expriment leur propre point de vue. Moi, je sais que pour notre part, nous avons voté parce que en conviction, nous sommes hostiles au pass sanitaire et nous serions hostiles à son rétablissement. C'est-à-dire.
Je sais pas, quelque chose qu'a toujours porté la gauche et LFI, est-ce que vous voterez avec le Rassemblement National pour faire barrage à Macron?
Mais vous savez, moi j'ai toujours voté pour mes convictions. Quand Madame Borne va venir pour dire qu'elle va déconjugaliser l'allocation adulte handicapé, ce qu'on a réclamé constamment pendant les 5 dernières années, avec les commissaires, avec la droite et nous-mêmes, et que pendant 5 ans, Madame Borne et ses autres ministres nous ont refusé, maintenant quand ça va être elle qui va venir nous le présenter, est-ce que je vais voter contre? Non, je vais voter pour.
Donc
je
vais... C'est important. Alors, ça, donc, question sur le pouvoir d'achat maintenant, parce que ça va être le grand sujet la semaine prochaine avec le débat sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Je lance la discussion, puis après les grandes gueules vous relayez. Mais par exemple, le bouclier tarifaire, le bouclier énergétique, qui doit s'arrêter. Hein. Madame Borne l'a confirmé cet hiver. Est-ce qu'il faudrait le prolonger? Et si on l'arrête, on fait quoi derrière?
Bon, il y a la nécessité sans doute de prolonger ça parce qu'il faut que les gens les plus modestes puissent vivre. Maintenant, moi je viens pour porter autre chose. Je viens, à vrai dire, quelque chose qui est tellement banal et tellement évident. Les Français qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur travail.
Merci.
Et de leur salaire. Point barre.
Oui, parce que là, on sera tous d'accord.
J'ai fait la liste.
Rien résolu.
Maintenant, on fait comment ça fonctionne. On a un gouvernement qui fonctionne à la prime. Prime d'activité, prime Macron, aide pour les précaires, prime hospitalière, prime Grenelle, chèque énergie, remise carburant, indemnité inflation, aide alimentaire d'urgence. Voilà. Est-ce qu'on veut des versements d'aumônes comme ça, régulière, ou simplement les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur travail.
D'accord.
Il y a eu un rapport qui a été rendu, qui était le rapport RL sur les métiers de la deuxième ligne. Vous savez, quand même, on sort d'une période où Emmanuel Macron nous a dit il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Donc le rapport RL...
Souvent, les métiers les plus utiles sont les moins bien payés.
Eh bien, exactement. Et c'est ce que démontrait ce rapport qui a été remis à la ministre du Travail, à sa demande, Madame Borne, à l'époque, et qui démontrait que 4,6 millions de salariés au féminin, ce sont les auxiliaires de vie sociale, les agents d'entretien, les assistantes maternelles. Au masculin, ce sont les caristes, ce sont les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, les travailleurs du bâtiment. Tous ces gens-là étaient sous-payés, bien souvent sous le SMIC, et avec des horaires qui étaient en plus des horaires impossibles. Madame Borne, on lui remet ce rapport, qu'est-ce qu'elle dit ? Nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un refus, là, de faire des règles communes.
Et comment vous voulez faire ?
Eh ben, moi, je dis, vous savez, je suis pour, un, le SMIC à 1500 euros. Qui autour de cette table va dire qu'il peut vivre avec 1300 euros. Moi, j'ai fait... Vous savez, quand il y a un projet de loi qui arrive comme ça, je procède à mes propres auditions. Parce que je sais que dans les auditions de l'Assemblée nationale, il ne va pas y avoir les Français du panel RMC à moins de 2000 euros par mois qui n'ont plus rien le 18 mois.
D'accord, sauf que là, vous faites peser la contrainte sur les entreprises. Il y a des entreprises qui vont dire « Mais moi, j'ai pas les moyens. » Alors, voilà, quand on parle des entreprises, on pense toujours aux super entreprises, mais majoritairement, les entreprises en France, ce sont des PME et qui essayent de...
Tout est là.
Et qui, quand ils donnent 1500 à un ouvrier ou à un salarié,
ça leur coûte
pas loin de 3000, quoi. Moi, quand même, vous le dire.
La focalisation qu'a ouvert, je l'ai déjà dit, hein.
la focalisation sur les grands groupes, elle écarte en fait le sujet. Non. On a un vrai problème sur les grands groupes. Sur les grands groupes, la mondialisation, quand même,
phénomène.
S'est passée sur les 10 dernières années. On commence à avoir un consensus, les GAFA, les machins, etc. Le pouvoir qui a été donné à certaines entreprises à l'échelon mondial, on a un vrai sujet là.
Bon, en France, ce sont les PME qui embauchent.
Sur les PME, PMI.
Je vais faire de la pub.
Alors attendez, parce qu'il est arrivé avec des magazines.
Il faut se rendre compte de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire un gigantesque de gavage qui se produit au sommet.
Vous avez entre les mains. C'est inverse entre le sommet là.
Oui, je suis venu avec.
Vous avez le numéro de Challenge.
Challenge, qui n'est pas connu pour être un magazine marxiste, a priori. Hein.
Fortune de
qu'est-ce
France.
Qu'est-ce qu'ils révèlent pour la, ils font un classement tous les ans des 500 fortunes. Pour la première fois, les 500 fortunes dépassent les 1000 milliards d'euros. Et ils disent que c'était une multiplication par 4 sur les 10 dernières années. Eh ben, les salaires, les retraites et tout ça, n'a pas augmenté dans la même proportion. Vous avez demain qui sort le numéro de l'Obs sur impôts, les privilèges du CAC 40. Qu'est-ce qu'on apprend? Sanofi, Total, Renault ne payent pas d'impôts sur les sociétés en France. Et plein d'autres groupes paye moins de 4% d'impôts sur les sociétés en France. Alors que les PME, elles vont être à 24% d'impôts sur les sociétés en France.
Oui.
Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de la justice. C'est de la justice. Il faut que les gros payent gros et que les petits payent petits. C'est vrai pour les individus. Les plus riches de ce pays, ils doivent payer en proportion leur patrimoine et payer davantage. Mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut quelque part une péréquation qui fasse que les PME, qui sans doute, ont moins de marge, et pourtant, qui paye plus d'impôts, et ben ça soit l'inverse qui se produise. Et aujourd'hui, jamais dans l'ensemble de l'économie française, le taux de marge des entreprises en général, une fois qu'on met les petites et les grosses tout compris, jamais le taux de marge après impôts n'a été aussi élevé. Donc il y a de la marge là-dedans. Maintenant, la question quand même, elle est simple, c'est qui dans ce pays, moi j'interroge des gens qui sont caristes depuis 15 ans, ils sont à 1300 euros. Comment on peut accepter ça? Évidemment, ils partent pas en vacances. La question ne se pose même pas. Alors que leur père, ils sont deux salaires, hein. Salaires, ils partent pas en vacances.
Alors
leur père, salaire unique, soudeur. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il faisait, il partait en vacances. C'était en camping, c'était dans les Alpes.
Il pouvait même être propriétaire.
Voilà. Ouais. Et donc là, il y a l'impossibilité pour les travailleurs les plus essentiels de ce pays de se projeter. Donc moi, je viens en appeler. Ça fait 40 ans qu'on a la modération salariale. Ça fait 40 ans qu'on fait peser les efforts sur les salariés. Moi, je viens
l'inflation en appeler. L'inflation change tout maintenant.
Mais l'inflation. Alors moi, je suis pour deux mesures. Je vous ai posé ma première mesure, hein, qui est le SMIC à 1 500 euros, parce que.
Et la deuxième?
La deuxième, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça veut
comme
dire quoi? Ça veut dire
dans les 70.
Ça a été mis en place quand même par Antoine Pinet. Vous voyez, qui était alors pour
les marxistes.
Non, Antoine Pinet, c'est le bon père de famille, c'est un gars de droite.
Il
dans 1952, bien. Ça a été enlevé en 1982, et dès qu'il y a eu la désindexation des salaires, ça a produit un glissement du partage de la valeur ajoutée qui a basculé très très rapidement du travail vers le capital. Et donc là aujourd'hui, enfin, comment imaginer que déjà on a affaire à des petits salaires et que en plus ces petits salaires là, ils vont se retrouver rognés par l'inflation? Parce que moi j'ai des boîtes là dans l'industrie agroalimentaire, le gars me dit bah moi je suis payé 1700 euros comme chef d'équipe. La nuit, bon, voilà. Et là, le patron, il nous a dit, vous aurez le droit à 2%. Mais 2% quand il y a 5% d'inflation, ça veut dire que la réalité à l'arrivée, c'est moins 3%. Ça veut dire que on demande aux salariés de se serrer la ceinture qui déjà pas laisse sur 1, 2, 3%. Ça veut dire que les gens, ils regardent tout. Ils regardent sur les fruits et légumes, ils regardent tout ça, mais massivement, dans les auditions que j'ai fait, ça regarde. Parce que j'ai choisi de ne pas faire les gens qui sont dans la pauvreté. J'ai même pas les mots de nos parents.
En fait, c'est les gens qui travaillent.
Ouais, les gens qui se considéraient sans doute comme étant dans la classe moyenne, ouais. Qui se définissent comme ça. Et la classe moyenne, aujourd'hui, c'est de se dire, mais je vais pas pouvoir partir en vacances comme je partais avant ou comme mes parents partaient auparavant. Et je pense que faire peser aujourd'hui l'inflation sur les gens qui sont, ils ont des revenus menaces et qui font tourner le pays, c'est vraiment, je rappelle la phrase d'Emmanuel Macron, citant la déclaration des droits de l'homme de 1789, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Je veux dire que les députés peuvent s'interroger sur l'utilité qu'ils ont, les éditorialistes
tout le
également,
monde, ouais, tout le monde.
Et alors que, je veux pas, il s'agit pas de faire un classement, mais de se dire qu'on est au moins à égalité avec une vie sociale qui tous les jours s'occupe des personnes âgées.
Bien sûr. Chloé Ridel.
Non, mais moi je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a une nécessité de porter le SMIC à 1500 euros, d'ajuster les salaires à l'inflation, c'est absolument pas normal. Il y avait aussi une mesure sur le blocage de l'augmentation des loyers. Mais je comprends même pas comment on autorise que les loyers soient augmentés. Alors ceux qui sont propriétaires.
Une augmentation modérée, puisque ça sera pas au-delà de 3%.
Mais oui, mais même qu'il y ait une augmentation de 3%, au nom de quoi? Quand vous êtes propriétaire et que vous avez une dette, par exemple, sur un logement. votre dette avec l'inflation, elle se réduit, votre taux d'intérêt, il évolue pas. Donc pourquoi est-ce que vous allez vous enrichir en augmentant les loyers? Quelle est la raison derrière ça? Donc je crois que, enfin, cette mesure, je ne la comprends pas. Et je pense que à un moment où on est en train de se réjouir, où le président de la République se réjouit, se dit fier d'avoir créé des emplois avec Uber qui sont en réalité des emplois précaires, sans congé payé, François Ruffin l'a dit, avec une moyenne de rémunération de 590 euros, et qui met dans la tête des Français que c'est ça ou rien, c'est ça ou pas d'emploi. Et ben, c'est, je trouve, un débat public totalement délétère, parce qu'il y a des solutions. On a le droit, chaque travailleur a le droit à la dignité, au fait de partir en vacances, à être protégé, à la santé et à un salaire décent. Ça devrait être le b.a.-ba. Voilà.
Après, on est aussi dans
le problème, c'est qui paye.
On est dans un contexte économique
qui paye,
qui est moins favorable. On sait que la croissance sera moins forte l'année prochaine, du fait donc des tensions, l'inflation, la guerre en Ukraine. Le quoi qu'il en coûte, c'est plus possible. Les finances publiques ont atteint une cote d'alerte. On a aussi besoin de beaucoup d'argent pour l'hôpital, pour la justice, pour les enseignants, pour beaucoup de choses, pour faire la transition énergétique. Et sincèrement, comment on fait? À un moment donné, quelle est l'équation, la bonne équation, monsieur Ruffin, et qui paye à la fin?
D'abord, dire le sentiment d'injustice quand même. C'est-à-dire que quand c'est l'inflation des PDG du CAC 40 qui ont doublé leur salaire l'année dernière, cette inflation-là, elle pose pas de problème et on se demande pas qui paye. Là, il n'y a pas de question. Et donc, moi, je demande comment on fait nation. Comment on fait du commun? Comment on est ensemble quand on a un pan du pays qui s'échappe complètement par le haut et un autre pan du pays qui se sent tassé vers le bas. Donc la question, elle est plus globale dans ce sens-là. Voilà. Et je pense que dans ce contexte, vous savez, même comment le fait de ne pas payer les gens introduit du chaos. Si on avait payé les gens plus correctement à l'hôpital, il n'y aurait pas ce chaos-là.
Oui.
Si on avait payé les gens plus correctement, les profs, il n'y aurait pas le chaos qu'on va avoir à la rentrée.
Oui, puis on a laissé le chaos se saler. Mais attends, c'est plus compliqué à le régler.
Je vois le turnover qui m'est raconté dans les entreprises que j'ai, dans l'entreprise d'industrie agroalimentaire, là, il dit, mais on n'arrive pas à recruter à 1250 euros par mois. Mais si on relève les salaires, si les gens tirent une dignité de leur travail, on arrivera.
Oui, mais si on relève les salaires, est-ce qu'on n'entretient pas aussi l'inflation?
Oui, mais d'accord, mais comment ça se fait qu'on accepte que, il y ait de l'inflation sur les plus hauts revenus? Qui est l'inflation sur les dividendes, qui est l'inflation sur les profits, mais que en revanche, il y a une inflation qui soit, il nous soit interdite, c'est l'inflation sur les plus modestes. Par exemple, moi, je peux dire que on pourrait relever les salaires et les indexer sur l'inflation jusqu'au salaire moyen qui est de 2300 euros. Ça serait quelque chose qui serait un compromis pour parler comme Madame Borne. Vous voyez, moi, je suis prêt à arriver à ce compromis-là. Mais en revanche, se dire que l'inflation va venir rogner des salaires qui sont déjà pas assez élevés dans le pays, moi, je pense que c'est une situation qui est plus acceptable.
Laurent Maillien.
Moi, je répète, pour être dans ce pays depuis 1959, c'est l'année où je suis né, je répète quand même que ce qui m'inquiète beaucoup, et pour avoir beaucoup voyagé, je le dis, c'est que le niveau de prélèvement, le niveau de taxation de ce pays est un des plus élevés du monde, et que quelque part, effectivement, la question qu'on se pose, c'est qu'on n'arrive pas, et il y a des sujets où moi je vous rejoins, il y a des sujets où on se dit, il n'y a pas d'argent. Donc il n'y a pas d'argent
pour le... Donc où va l'argent?
Donc moi je me pose la question, et du reste je pense que c'est ce que les Français ne comprennent pas. C'est le décalage entre le taux d'imposition. Alors après, on a effectivement le sujet des dirigeants qui exposent des explosions de dividendes, de résultats, de salaires sur les dernières années, qui blessent les gens, qui choquent les gens. Mais c'est un vrai problème actuel, ça, on n'est pas... Et c'est un problème mondial, c'est pas chez nous. On en revient encore une fois à la façon dont fonctionne
la France. Oui,
parce qu'en même
gens.
Temps, on paye beaucoup tous d'impôts.
Ben oui.
Alors peut-être que les grands n'en payent pas assez, mais collectivement, on paye beaucoup d'impôts et on nous explique matin, midi et soir que rien ne va dans la fonction publique, dans les services publics.
Et quand il y a de l'inflation, cet impôt augmente. Je parle de la TVA, entre autres.
Oui, la question, par exemple, la TVA est un impôt particulièrement injuste puisque c'est un impôt qui est dégressif, c'est-à-dire qu'en proportion, les plus modestes payent davantage de TVA parce que eux, ils consomment tout leur argent que ne le payent les plus riches. Qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Je le fais en mode technique, je suis désolé, mais on a un glissement de l'impôt des bases mobiles vers les bases immobiles. Vous savez quoi, les bases mobiles? C'est le capital. Les impôts sur le capital ont diminué parce qu'on se dit, oh là là, mais ils risquent de faire fuir toute leur fortune ailleurs, donc on peut pas les taxer. Et de la même manière, les grandes entreprises ont dit, mais elles risquent de partir, donc on peut plus les taxer. Diminution de baisse de l'impôt sur les sociétés et ainsi de suite. Et en fait, on a un glissement vers les bases qui sont immobiles. Les bases immobiles, c'est qui? C'est le patron de PME. Il va pas pouvoir aller mettre son argent aux Bermudes. Il va pas pouvoir aller délocaliser en Chine. Et c'est nous. Parce que nous, moi, je vais pas aller me mettre au Luxembourg. J'ai mes enfants qui se trouvent à Amiens, je vais continuer à habiter à Amiens. Donc mes impôts à moi, la TVA, mes impôts locaux et ainsi de suite, oui, ils peuvent pas, continuer d'augmenter parce que je vais pas partir. Donc on a un glissement sur 30 ans des bases qui elles peuvent fuir vers les bases qui ne peuvent pas fuir. Et voilà pourquoi il y a un sentiment d'injustice. Alors, moi, je pense qu'on est dans un temps où c'est comme si on avait des nouveaux seigneurs. C'est comme si c'était les temps féodaux. Il y a des nouveaux seigneurs qui accumulent les richesses et qui refusent en plus de payer l'impôt.
Alors, Chloé, d'un dernier mot. Chloé Cahoutère, il vous reste 10 secondes.
J'ai pas parlé, attends.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Je veux juste dire que sur les salaires, depuis 40 ans, la mondialisation a eu un effet miroir. C'est-à-dire que les hauts salaires ont augmenté grâce à la compétition. La compétition parce qu'ils pouvaient aller dans un autre pays pour être mieux payés tellement. Hein. Et par contre, pour les bas salaires, pour tous les travailleurs, ça a eu un effet déflationniste, la mondialisation. Donc, c'est vrai qu'il y a 40 ans d'injustice derrière nous qu'il faut corriger aujourd'hui.
Pour moi, tout ce qu'a dit M. Ruffin est du petit lait, c'est le début de solution. Et je vous rappelle que toutes les révolutions, un mot que tu n'aimes pas, est parti des émeutes de la faim. Aujourd'hui, on est dans un pays où quand on travaille, on ne peut plus vivre de son travail. Oui. C'est indécent. Et n'oubliez pas que ça part de... Quand on se sent humilié et méprisé, et quand on travaille, qu'on n'arrive ni à payer son loyer, ni à se nourrir, ni à partir en vacances, ni les extras... C'est le début de la fin, en fait.
Merci François Ruffin.
Merci beaucoup
d'être venu ici à la table des grandes gueules.